Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis de France et du bout du monde, bonjour, heureux de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous du Cercle Turgot avec un de ses éminents représentants, l'économiste Pierre Sabatier, qui est administrateur du Cercle Turgot et qui est aussi président du cabinet d'analyse PrimeView. Bonjour Pierre.
Bonjour Jean-Louis.
Merci de vous recevoir sur notre antenne. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est, je dirais, en perspective après le gris d'apocalypse qui se profilait sur la zone euro et qui semble avoir été évité au moins pour quelque temps avec une remise dans le droit chemin, si je puis dire, de la Grèce. Se profile maintenant l'autre risque, et non le moindre, qui est celui d'une longue dépression qui pèse sur les perspectives à la fois de la zone euro et bien entendu de la France. Alors, ces perspectives de dépression sont liées à la fois aux grandes faiblesses structurelles de la zone et de sa gouvernance, indécision et discordance dans la gouvernance, lenteur et complexité dans la mise en place des thérapies susceptibles de rassurer les marchés sur l'insolvabilité des États de la zone. Après la Grèce, voilà l'Italie. On n'ose pas parler d'autres pays, l'avenir de l'euro, etc. Mais surtout, des risques de dépression qui la guettent et dont les signaux d'alerte sont passés nettement à l'orange, voire au rouge. Ainsi, donc, si on exclut le risque du chaos absolu avec une implosion de l'euro et un abandon de l'euro, le pire scénario qui menace l'Europe et la France serait de se voir condamné pour un temps insupportable à une longue dépression. Alors je rappelle que l'OCDE a déjà exhorté le G20 à un plan d'action plus rapide et efficace et elle a revu à la baisse très sensiblement ses perspectives de croissance en les ramenant de 0,20 alors qu'elles étaient un an plus tôt à 0,80. Idem pour la zone américaine. Donc ce scénario, c'est celui aussi des nombreux handicaps institutionnels de l'Europe occidentale, des erreurs de politique publique comme les faiblesses macroéconomiques qui pourraient déclencher ce fameux cycle de dépression et qui, sur un certain nombre de points, sont d'ailleurs peut-être déjà en œuvre depuis 2000. Alors, Pierre Sabatier, première question, est-ce que ce risque est véritable selon vous et est-ce que ce qui s'est passé au dernier G20 est de nature à vous rassurer ou au contraire à vous inquiéter?
Alors, question difficile. La première des choses, c'est, on va dire que le dialogue n'est pas rompu. C'est déjà le premier enseignement et c'est la moindre des choses. Voilà. Mais c'est aussi la plus importante parce qu'il est évident, au regard de la gravité de la crise actuelle, et j'y reviendrai, qui n'est pas qu'une crise de solvabilité, mais dans un premier temps, qui est d'abord une crise de liquidité à très court terme.
C'est ça.
Aujourd'hui, l'important, c'est qu'on ne trouvera de solution que dans la coordination des économies les unes avec les autres. Et d'ailleurs, j'ai bien dit économie, pas seulement marché financier. Donc, aujourd'hui, ce qu'on vit, c'est d'abord une crainte de crise cardiaque. La crise cardiaque, c'est quoi? En économie, c'est d'abord une crise de liquidité. C'est en gros que la Grèce ne soit pas en mesure de faire face à ses échéances prochaines. Et hier, la Grèce, aujourd'hui, l'Italie. Donc, pour répondre à une crise de liquidité comme ça, il faut bien entendu que tous les acteurs se mettent en face pour essayer de limiter le stress aigu. Quand je dis tous les acteurs, c'est bien sûr les gouvernements, mais c'est avant tout les autorités monétaires et financières que sont les banques centrales. Et là, heureusement, on va dire, ou malheureusement, de par l'expérience qu'ont acquis nos banquiers centraux, qu'ils soient européens, américains ou autres, au cours des deux dernières décennies, on peut dire qu'ils sont en réaction, qu'ils ont des réactions qui sont à la hauteur des problèmes qu'ils se posent devant nous.
Alors, il semble que la BCE déjà ait revu sa copie avec l'arrivée de son nouveau président, en baissant ses taux. Alors, cela étant, le président s'est immédiatement pressé de dire que s'il ne fallait pas en tirer de conclusion, mais les faits sont là. Les taux ont été baissés et c'est quand même un signe pour la zone.
Un signe de prise de conscience. Alors, on voit deux phénomènes et deux interprétations à la chose. C'est un, Jean-Claude Trichet était un petit peu enfermé de par son histoire. Je dirais, c'était un président de longue date aujourd'hui à la tête de la Banque centrale et donc un peu enfermé dans une image que n'a pas aujourd'hui Mario Draghi. Et donc, lors de sa première réunion, ils ont effectivement décidé de baisser les taux. Il faut baisser les taux. Bien entendu, notre économie et les risques qui pèsent sur notre économie ne sont pas du tout inflationnistes, mais beaucoup plus déflationnistes. Oui. Lorsqu'on parle de dépression, on parle de déflation. Et la réponse, la première réponse à adopter, qui est la politique monétaire conventionnelle, c'est la baisse des taux d'intérêt, parce que lorsque le moteur ralentit, il faut injecter de l'essence dans ce moteur-là pour que la voiture continue d'avancer.
Alors, d'une part, pour relancer l'économie, mais ce qui est aussi assez significatif de la position prise par le nouveau président de la BCE, quelque part, elle donne quand même un signal en tant qu'union monétaire, et elle dit au reste du monde et au marché, eh bien, la zone euro est comme les autres zones monétaires. Elle prétend qu'elle ne peut pas faire défaut sur sa propre monnaie. L'Angleterre ne peut pas faire défaut, puisqu'à un moment donné, la banque centrale peut injecter des liquidités. L'Amérique, le dollar, ne peut pas faire défaut, parce qu'il y a la Fed. Et jusqu'à présent, on se demandait si, effectivement, il y aurait ce rempart de dernier ressort. Alors, il semble qu'un grand pas ait été fait dans ce sens, et donc que c'est doublement rassurant, à la fois pour la relance économique, mais aussi pour la crise de solvabilité qui, par contre, est bien réelle et qui pèse, bien entendu, sur la croissance et donc qui a une incidence sur le risque de dépression.
Alors, un mot, justement, pour compléter, c'est tout à fait ça. L'objectif des banquiers centraux, c'est bien de dire aux investisseurs, il ne peut plus exister de crise de liquidité, puisqu'on se mettra en face. Il faut le faire, parce que si les banquiers centraux ne se mettent pas en face, à ce moment, vous avez le bébé qui part avec l'eau du bain et vous tombez dans une dépression, mais pas une dépression molle, une dépression violente, avec des effets de rupture qui cassent l'ensemble de vos économies. Donc là, très clairement, la Banque centrale a fait un pas dans cette direction, il faut le faire. Maintenant, à juste titre, vous évoquez la problématique d'une crise de solvabilité. Là est le problème. On est en mesure de rassurer les investisseurs sur notre capacité à gérer la crise de liquidité à court terme. La vraie question, c'est quelle perspective pour nos économies? Et là, on va dire que les experts sont beaucoup moins d'accord. Nous, notre point de vue, c'est que le temps nécessaire à la purge des excès passés sera long. Historiquement, la crise qu'on vit aujourd'hui est d'abord une crise de surendettement. Surendettement, on constate des agents publics, des États aujourd'hui, mais avant toute chose et au préalable, des agents privés qui étaient les entreprises dans une moindre mesure et surtout les ménages. Et le problème, on le constate dans l'histoire, c'est que ce phénomène de désendettement des ménages, il met longtemps, il met historiquement entre 8 et 23 ans. Alors on peut se bercer d'illusions et penser, imaginer les ménages reconsommer et, je dirais, continuer leur consommation à crédit. Je ne crois pas que ça soit un scénario crédible. Et donc, il vaut mieux se positionner en se disant ce phénomène sera long et donc essayant de le maîtriser au maximum.
Alors, les dépressions font partie, bien entendu, des cycles économiques et de l'histoire contemporaine. Elles peuvent être brutales, comme ce qui s'est passé aux USA ou en Allemagne de l'Est durant les années 90. En Argentine, sur la période 98-2002. Et puis aussi en Occident, dans des périodes beaucoup plus anciennes. Mais elles peuvent être, alors, et là, je fais appel à votre expérience, et je sais que vous êtes un spécialiste de la question, elles peuvent être aussi rampantes, comme celle du Japon. Alors, c'est plutôt ce risque de scénario-là qui, maintenant, est devant nous, c'est-à-dire une longue dépression.
Absolument. Je crois qu'il faut regarder avec attention la trajectoire de l'économie japonaise depuis 20 ans. On pourrait même dire depuis 40 ans. Je dirais de 1960-70 jusqu'à la fin des années 80, le Japon a connu une trajectoire extrêmement ascendante, mais qui reposait essentiellement sur l'illusion d'un enrichissement des ménages via le crédit. Donc ça a constitué quoi? Des bulles immobilières, des bulles financières absolument gigantesques, voilà, et qui se sont révélées être des bulles, puisqu'on constate qu'une bulle est une bulle une fois qu'elle a explosé. Ouais. Donc en 1990, cette économie de bulle a finalement explosé. À partir de là, on est rentré dans un phénomène beaucoup plus, et on constate, qui est extrêmement difficile à gérer pour les États. Dans un premier temps, vous avez en fait l'État a essayé de se faire désendetter les entreprises. Il a réussi. Il a essayé dans un deuxième temps de permettre aux ménages japonais de se désendetter, ce qu'il n'a pas réussi à faire en 20 ans. Là est le problème aujourd'hui de l'État japonais, c'est qu'il est extrêmement difficile de gérer une situation dans laquelle vos ménages sont surendettés. Un exemple simple, lorsque vous mettez à acheter un appartement et vous endettez pour 35 ans, à savoir sur deux générations, voilà, et vous achetez un bien immobilier qui perd 50% de sa valeur, vous mettez à rembourser, vous voyez, comprenez, à rembourser un bien qui ne vaut même pas la moitié du prix auquel vous l'avez acheté. Eh bien ça, c'est pas bon pour la confiance. Or, les économies reposent sur quoi aujourd'hui? Sur un seul pilier, je dis bien un seul, c'est la confiance. Lorsque vous n'avez pas confiance en l'avenir, vous repoussez votre achat d'automobile. Lorsque vous n'avez pas confiance en l'avenir, vous repoussez votre achat de votre machine à laver. Et c'est aussi vrai pour les banquiers. Lorsque le banquier n'a pas confiance en votre avenir, eh bien, il a une propension à moins vous prêter. Et c'est là où il faut faire extrêmement attention. Je ferai un petit parallèle par rapport au plan de rigueur qui se généralise aujourd'hui dans l'ensemble de la zone euro. Attention, il faut apprendre de l'exemple japonais. Si le Japon est entré en déflation, la déflation ne date pas de l'explosion de l'économie de bulle de 1990, mais du milieu des années 90. Et s'ils sont entrés en déflation, en dépression, c'est au moment où l'État a essayé de faire trop de rigueur d'un coup. Donc oui, il faut absolument, j'irai, donner des perspectives meilleures aux dépenses publiques, notamment, mais attention, on ne résoudra pas et on ne trouvera pas, on ne redéfinira pas, je dirais, un modèle de société en 15 jours. Donc voilà, il faut se laisser le temps, entre guillemets, de réinventer ce modèle de société en se disant la vérité, à savoir on ne peut plus dépenser à outrance sans une bonne gestion budgétaire. Mais aujourd'hui, réellement, il faut avoir conscience, il faut acheter du temps, sinon on se transformera en Japon. Et le Japon, je vous le répète, c'est 9% de déficit public par an depuis 20 ans et une dette publique de 220% du PIB. Aujourd'hui, on est sur des niveaux qui tournent autour de 85% pour notre pays. La Grèce n'a pas atteint plus de 160% du PIB. J'ai bien dit 220% pour le Japon. Ouais. Donc attention, effectivement, aujourd'hui, on a à gérer des excès monumentaux
en termes de dette,
mais de dette des agents privés, qui est aujourd'hui, pour moi, plus inquiétante et beaucoup plus difficile à régler qu'un problème de dette publique.
Mais alors, l'endettement, on va dire en moyenne, je ne sais pas si on peut parler de moyenne, mais en zone euro des agents privés, des ménages, est en valeur relative beaucoup plus faible que celle du Japon. C'est plutôt la sphère publique qui est endettée dans la zone euro.
Alors, on va dire, ça dépend de quel pays.
C'est le cas pour la France, en tout cas.
Pour la France, tout à fait. Donc, parmi tous ces élèves-là, il est très clair que le fond de ma pensée, c'est que les pays anglo-saxons, aujourd'hui, sont dans un état de fragilité beaucoup plus grand que les pays de la zone euro et que les grands pays de la zone euro, avec l'Allemagne en tête, mais la France en second. Et c'est bien ça qu'il faut toujours avoir en tête, c'est que pour l'instant, la crise est européenne parce que les investisseurs n'avaient pas pris conscience que les autorités monétaires lutteraient et éviteraient une crise de liquidité. Une fois que vous avez mis ça en tête, vous verrez d'ici l'année prochaine que les problèmes structurels inhérents aux économies anglaises et américaines reviendront sur le devant de la scène, puisque je rappelle les fondamentaux aux États-Unis. C'est aussi un problème d'endettement public. Hein. Elle frôle les 100% du PIB.
Tout à fait.
Aujourd'hui, le déficit public tourne autour entre 8 et 10% par an. Sauf que là-bas, vous avez aussi un excès d'endettement privé absolument monumental.
Oui, tout à fait.
Donc, la réalité des faits, c'est qu'aujourd'hui, on gère une crise d'urgence, comme vous l'avez évoqué, liée à la cacophonie de nos élites politiques qui n'arrivent pas à se mettre d'accord, qui, j'irais, se parlent par l'intermédiaire de la voie de presse, qui est extrêmement négative pour les investisseurs, puisque l'on sait que sur les marchés financiers, si vous laissez la porte ouverte au doute, immédiatement, les investisseurs s'engouffrent dans cette porte-là. C'est ce qui se passe avec des pays qui sont systématiquement attaqués via les taux d'intérêt. Et aujourd'hui, on est à l'Italie qui, aujourd'hui, paye sa dette, rendez-vous compte, sa dette sur 10 ans, 6,5%.
Ouais, donc c'est carrément limite. Hein, c'est carrément limite.
Exactement.
Au-delà de 6, ça commence à être extrêmement préoccupant. Puisque
c'est extrêmement préoccupant et c'est d'abord un problème, c'est moins un problème d'ailleurs de risque gouvernemental, puisque c'est la Banque centrale aujourd'hui qui achète les obligations italiennes, comme à peu près toutes les obligations qui sont en difficulté, à juste titre. Je le rappelle, il ne faut pas que ça dure éternellement, mais en tout cas, à juste titre aujourd'hui, on ne peut pas se permettre d'avoir un État qui fasse faillite. Le vrai problème du 6,5% payé par l'État italien, c'est d'abord un problème bancaire et d'assurance. C'est parce que ça fait peser un risque systémique sur nos établissements financiers. Alors, tout à l'heure, j'évoquais la zone euro comme bon élève comparativement aux pays anglo-saxons et au Japon. Malheureusement, par contre, il faut savoir que notre système financier est beaucoup plus vulnérable que les pays anglo-saxons, puisque l'essentiel des gens qui achètent des obligations dans nos pays sont des banquiers et des assureurs. Voilà. Ouais. Donc, ce qui fait que lorsque les États sont en difficulté, ça met en difficulté de manière plus importante que dans les pays anglo-saxons,
nos banques.
Ouais. Et on sait que les banques sont quand même le levier qui permet à une économie de fonctionner via la distribution de crédit aux ménages.
Mais pour le cas de l'Italie, juste une petite parenthèse, il semble quand même que ce soit plus un problème de confiance dans la gouvernance, dans le gouvernement, et on ne peut pas dire dans le chef de l'État, puisqu'en fait, une grosse partie de la dette est détenue par les particuliers. Et donc, enfin, je crois que c'est à hauteur de 70%, la dette est détenue par les particuliers. C'est absolument l'inverse en France. Elle est détenue qu'à 30% par les particuliers. Donc, cet État italien qui, en fait, a un tissu de PME, PMI, exportateur de façon traditionnelle et dynamique, qui a des équilibres primaires relativement satisfaisants.
Absolument.
Est-ce qu'on ne peut pas se dire, mais c'est peut-être un petit peu cynique, mais en fait, son grand ennemi, c'est l'euro. Puisque s'ils n'avaient pas rencontré l'euro sur leur chemin, avec leurs équilibres budgétaires et la façon de gérer leurs dettes, ils auraient moins de problèmes de perspective.
Bravo de poser le problème en ces mots, car la réalité européenne aujourd'hui, c'est que l'essentiel et ce que doivent trouver comme solution nos gouvernants, c'est d'abord une réponse à cette problématique qui est avoir une même monnaie avec des économies
qui
sont totalement différentes et dont les intérêts sont divergents. Et c'est ça la réalité des choses, c'est effectivement l'exportateur italien hier était en mesure de dévaluer sa monnaie pour subventionner ses exportations. Je rappelle que les exportations italiennes, tout comme françaises, allemandes et l'ensemble des exportations européennes, se dirigent vers des pays qui sont européens aussi. Donc réellement, effectivement, le concurrent principal aujourd'hui de l'économie italienne, française et allemande aussi, même si l'Allemagne a quand même un avantage par rapport aux autres, c'est que sa gamme de produits qu'elle vend est un petit peu plus qualifiée et donc un peu plus haut de gamme, ce qui la protège un peu de la concurrence étrangère. Maintenant, effectivement, il y a plusieurs manières de répondre à ça. C'est soit, on l'a déjà évoqué, du fédéralisme budgétaire, à savoir que les régions riches de la zone euro subventionneront les régions pauvres de la zone euro. Quand je dis région, aujourd'hui, la région riche, c'est l'Europe du Nord, c'est l'Allemagne, les régions pauvres, c'est les pays du Sud. Enfin, c'est ce qui se passe effectivement aujourd'hui dans nos régions d'ailleurs. C'est bien la région parisienne qui finance un certain nombre de régions rurales de nos pays.
Tout à fait.
Sauf qu'on n'appelle pas ça du fédéralisme parce qu'on est à l'échelle nationale. Ouais. Voilà, donc soit vous arrivez à mettre en place ce genre de choses, mais ça, vous ne le ferez pas contre les opinions publiques. Il faut qu'ils l'acceptent. On n'en est pas encore là, même si les choses avancent. On n'en est pas encore là. Donc, il faudra le faire soit de cette manière-là, soit, pourquoi pas, réorganiser un gain de compétitivité vers les pays du Sud. Il y a des choses possibles, mais là aussi, il va falloir laisser passer un petit peu de temps. Vous pouvez très bien organiser du dumping fiscal. Ce qu'a fait l'Irlande depuis toujours, c'est du dumping fiscal. Donc, c'est une politique non coopératrice vis-à-vis de ses concurrents européens. En faisant quoi ? En baissant les taux d'impôt sur les sociétés à des niveaux tels que des grands pays ne peuvent pas suivre. Et donc, vous attirez des entreprises. Donc, on peut s'inspirer de la chose, mais en le coordonnant, dans le sens où on pourrait très bien se mettre autour de la table, mettre l'ensemble des gouvernants autour de la table et dire « Aujourd'hui, on a un vrai problème de déficit structurel en Italie, en Espagne, etc. » On autorise ces pays, en France également, on autorise les pays les plus fragiles à afficher des taux d'imposition sur leur société pendant 5 ans. Parce qu'il compte pour un entrepreneur, ce n'est pas tellement l'intérêt du moment, c'est qu'il puisse se projeter.
Voilà, la prévisibilité.
Absolument, c'est fondamental. Donc on peut très bien dire à ces pays, vous avez l'autorisation d'avoir un impôt sur les sociétés pendant 5 ans de 20%. Et quand les autres seront à 30%, et vous verrez, une entreprise n'a pas de morale. L'entreprise n'est d'ailleurs pas immorale, elle a la moralité de ses dirigeants. Donc demain, si vous recréez les conditions d'un avantage compétitif dans ces zones-là, vous serez en mesure de rétablir les déficits des comptes courants.
Voilà. Alors donc, ce que vous dites, c'est que effectivement, ce risque de dépression, eh bien, il existe. Ça, il est clair, les prévisions économiques sont là. Il est, on va dire, exacerbé par ce fameux dilemme de Buridan, qui était le titre de votre ouvrage du Cercle Turgot, Rigueur ou relance, puisqu'en fait, la marge est extrêmement étroite,
extrêmement étroite.
Faut de toute façon faire de la rigueur, et par ailleurs, tâcher de faire de la relance. C'est extrêmement, extrêmement difficile. Mais il y a certainement, par la cohérence des politiques qui seront menées au niveau européen, une possibilité. Alors, je rappelle d'ailleurs au passage que le Cercle Turgot, vous allez me confirmer, tiendra une journée de débat, conférence-débat, à Dauphine, le 22 novembre, exactement, je crois, c'est de 17h à 20h, sur précisément ce sujet. Est-ce que l'Europe peut éviter le risque d'une grande dépression avec la participation des principaux économistes du Cercle Turgot, c'est bien ça?
Absolument. Alors, nous tâcherons, durant cette session, d'évoquer l'ensemble des problèmes structurels auxquels doit faire face aujourd'hui l'Europe et la zone euro en particulier. Voilà. Et à cette occasion, nous développerons les raisons structurelles, les facteurs structurels que nous n'avons pas évoqués aujourd'hui et auxquels devront faire face l'Europe. Et sans doute, le grand défi de l'Europe demain, c'est d'abord son vieillissement de sa population. Et donc, nous évoquerons également au cours de cette conférence-là comment des pays qui reposent sur des modèles de société qui ont été fondés durant les années 60 sur des populations qui étaient profondément jeunes pourront se réinventer dans une société qui, demain, sera amenée à vieillir. Le vieillissement n'a pas commencé, il commence aujourd'hui. Et donc, il posera effectivement des problèmes. Juste un dernier chiffre. Oui. Le FMI estime le poids du vieillissement, l'impact sur les comptes publics du vieillissement, un système de prise en charge constant, entre 150% jusqu'à 400% du PIB en fonction des pays. Je rappelle que le coût de la crise financière que nous avons connue en 2007 a coûté à peu près 35% du PIB mondial. Donc, alors, vous voyez que les ordres de grandeur sont extrêmement importants et donc il faudra se saisir du problème. Sinon, nous rentrerons effectivement dans une trajectoire dépressionniste qui sera difficile de contrer.
Oui. Alors, un dernier mot pour conclure sur la France. La France qui est notre préoccupation majeure, qui vient d'installer donc un deuxième plan de rigueur. Quel est votre sentiment? Les Français sont prêts à accepter cette rigueur? Est-ce que vous avez l'impression que la société civile a compris l'enjeu et que, alors évidemment, il y a aussi cette hypothèque qui pèse sur l'avenir à court terme, qui est celle des élections. Mais comment vous ressentez les choses, vous, en tant qu'économiste?
Alors, je crois que les opinions publiques sont de plus en plus prêtes. Il ne faut pas se mentir, les gens ont bien compris que l'état de nos finances et demain l'état du pays qu'on leur lèguera, qu'on lèguera à nos enfants, nous sommes dans une situation difficile, compliquée. Alors attention, cette fois, par contre, à bien dire les choses. C'est-à-dire que, je le répète, le seul pilier sur lequel repose notre économie, c'est d'abord, avant tout, la confiance. Donc, oui, faire de la rigueur, mais en donnant des perspectives. C'est ça le plus important. Aujourd'hui, que demandent les gens? Est-ce qu'il faut leur apporter? C'est leur expliquer quels seront, dans quel ordre de grandeur ils devront faire des efforts. Mais derrière, il faut leur donner la lumière au bout du tunnel. Aujourd'hui, je crois que le sens de l'élection présidentielle d'ailleurs qui sera abordé. Ça sera celui qui permettra de voir quelle forme prendra notre pays, dans un horizon de temps de 5, 10, 15 ans. Parce que voilà, on rentre dans une période qui sera difficile, dans laquelle il va falloir se réinventer. Et demain, pour se réinventer, il faut savoir vers quoi on veut tendre. Voilà. Et donc l'important, c'est de savoir vers quoi on veut tendre. Après, on fera les efforts qui seront nécessaires d'être faits. Mais par contre, les gens ne seront pas prêts à faire des efforts et ne les comprendront pas si on ne leur dit pas dans quelle direction ils vont. Voilà. Donc on ne répondra pas, ils ne seront pas prêts à faire de la rigueur pour répondre à une crise de liquidité. Ils seront prêts à faire des efforts si on leur explique et qu'on leur démontre que le pays pourra mieux se projeter à l'avenir et leurs enfants pourront mieux se projeter dans un horizon de temps plus lointain.
Voilà, donc c'était les convictions de l'économiste Pierre Sabatier, membre éminent du Cercle Turgot et qui est par ailleurs président du cabinet PrimeView. Donc, si je résume, ce risque de dépression existe, mais en donnant du temps au temps, en coordonnant les politiques budgétaires et économiques, avec des objectifs clairs et en parlant vrai, rien n'est perdu.
Absolument.
Merci Pierre Sabatier.
Merci.
À notre prochain rendez-vous. Au revoir.